Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, Jean-Claude Carrière nous a quitté cette début février à l'âge de 89 ans. Alors, bien sûr, ça a été une disparition surprise pour nous parce qu'on n'a pas pu en parler vraiment énormément lors de la dernière émission. On tenait à être prêt à lui rendre bien une sorte d'hommage puisque toute cette émission de Cinérama sera consacrée au scénariste Jean-Claude Carrière. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour cette émission, on a choisi donc chacun un film à mettre en avant parmi sa longue filmographie. Et puis, nous ferons évidemment un blind test autour de cinq de ces films. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi?
Alors, moi, j'ai choisi un film, une facette moins connue de Jean-Claude Carrière, puisque c'était un grand amateur de cinéma populaire et fantastique. Et donc, j'ai choisi un des deux films qu'il a scénarisé donc pour Jess Franco, le diabolique Dr. Z en 66.
Et puis toi, Guillaume?
Et moi, j'ai voulu choisir Taking Off parce que je voulais rendre un petit hommage à Carrière, parce que j'avais été, il y a 10 ans, invité chez lui pour un entretien qui s'est passé tout l'après-midi. Et ce qui m'avait marqué, c'était le fait qu'il ne prononçait pas Milos Forman, mais Miloš Forman. Donc j'ai eu envie de parler de Taking Off.
Et oui, mais le Miloš se comprend puisqu'il y a, oui, y a un petit accent, et effectivement. Ouais. Oui. Quant à Marine, elle a décidé de parler de La Piscine, film de Jacques Deray. Et puis moi, je parlerai de L'Artiste et son modèle de Fernando Trueba. Pourquoi ce film? Parce que c'est, bon, déjà, un des tout derniers, c'est un film de 2013. Et puis, j'avais pu rencontrer le réalisateur. Donc, ça veut dire que, eh bien, on écoutera quelques mots du réalisateur. Ce sera l'occasion pour vous, eh bien, pourquoi pas, d'avoir cette petite envie de vous procurer le DVD. Mais on commence avec le diabolique Dr. Z, film de Jesús Franco, dans cette émission consacrée à Jean-Claude Carrière.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Qui était-ce?
C'était Bresson.
Qu'est-ce qu'il voulait?
Un condamné à mort s'est échappé.
Ce dialogue délirant et référentiel donne un peu l'idée de ce fameux diabolique Dr. Z réalisé par un Jess Franco qui n'a sans doute jamais eu autant d'argent à sa disposition et aussi un scénariste aussi prestigieux que Jean-Claude Carrière qui reconnaît d'ailleurs dans les bonus du Blu-ray édité par Gaumont ne plus souvenir d'avoir écrit ce film. Enfin, il se souvient d'avoir écrit mais il ne se souvient plus de quoi parle en fait le film. Enfin, si, mais enfin, il ne se rappelle plus de l'histoire, plus attaché à dépeindre finalement le caractère fantaisiste de l'Espagnol pour qui on sent un réel attachement. Alors rendre hommage à Jean-Claude Carrière en évoquant une facette moins connue du grand public n'est pas la pire manière, car derrière l'artiste reconnu, le scénariste de l'insoutenable Gerté de Lettres était un grand admirateur de fantastique et de littérature populaire. Preuve en est, il a écrit 5 romans faisant suite à celui de Mary Shelley où il a imaginé que la créature de Frankenstein avait survécu. Ses ouvrages, signés sous le pseudo de Benoît Becker, écrits à la fin des années 50, sont sortis dans la collection Fleuve Noir et ont même été réédité récemment. Alors quoi d'étonnant au fond de le retrouver au service du stakhanoviste Jesús Franco pour 2 longs métrages, Carte sur table et ce diabolique Dr. Z, alors connu aussi sous le titre de Miss Muerte et Dans les griffes du maniaque. Alors dans les années 60, hein, il est un collaborateur, je parle de Jean-Claude Carrière, l'approche de Buñuel et de Pierre Etex pour des films produits par Serge Silberman, hein, qui offrit certainement dans le cas présent les budgets les plus conséquents aux réalisateurs de Vampire Lesbos. La filiation entre Buñuel et Franco n'est d'ailleurs pas contre nature, elle est même inscrite dans une certaine logique créative.
J'ai supprimé les cellules du mal chez une hyène et maintenant elle vient me manger dans la main. J'ai fait sur un lapin l'opération inverse et l'animal est devenu furieux. Il s'est détruit lui-même.
Et que voulez-vous exactement?
Vicas, je veux tenter l'expérience sur des humains.
Que dites-vous? Vous êtes fous! Vous prenez-vous pour des nazis?
Laissez-moi parler. Grâce à moi, tous les assassins, tous les sanguinaires, tous les maniaques sadiques pourraient être métamorphosés en êtres normaux, inoffensif et qui serait à même de mener une vie paisible.
Le diabolique Dr Z hein, demeure sans doute l'un des meilleurs films de Jess Franco. Un savoureux cocktail mêlant fantastique, récit policier, univers référentiel et humour décalé délirant, pratiquant constamment l'autocitation. Brillamment écrit, le film nous plonge dans une atmosphère hétéroclite et fascinante où se croisent les fantômes des films de monstres de la Universal des années 30, Fritz Lang, Orson Welles et le Godard iconoclaste des années 60. Le fameux Dr Z, qui disparaît assez vite, est un descendant d'un Mabuse ou mieux encore du Dr Orloff, personnage fétiche du cinéaste. Alors ce scientifique se livre à d'étranges expériences sur le cerveau humain, avançant la théorie que les gènes du mal sont physiologiques et que l'on peut arriver à les isoler. Alors violemment contesté par ses pairs lors d'une conférence, il succombe à une crise cardiaque. Sa fille décide de poursuivre les expériences tout en mettant en place une machination afin de venger son père. Et d'ailleurs il paraît qu'il se serait inspiré du même roman qui a donné lieu à La Mariette étant noire de William Ayrich, puisqu'il s'agissait aussi d'une histoire comme ça de vengeance. Elle va utiliser une danseuse d'ailleurs de cabaret qui va devenir l'instrument diabolique de sa vengeance. Alors si le film accuse quelques problèmes de rythme, péché mignon d'un cinéaste qui a toujours préféré s'attarder sur les détails au détriment de l'action, il est en revanche d'une beauté visuelle sidérante, objet pop puisant aussi bien dans la BD, l'art moderne et les classiques du cinéma. Alors d'ailleurs, la belle copie restaurée du Blu-ray rend justice au somptueux noir et blanc du chef opérateur Alejandro Ulloa, qui imagine des compositions graphiques héritées de l'expressionnisme allemand et du cinéma d'Orson Welles. Les plans en contre-plongée filmant les escaliers labyrinthiques, les décadrages permanents créant des perspectives inquiétantes ou encore ces effets de montage avant-gardistes très nouvelle vague participent au climat décalé et onirique de ce serial pas comme les autres, un pied dans le passé et un autre dans la modernité, soutenu par une partition jazz impeccable du fidèle collaborateur de Jess Franco, hein, Daniel White. D'ailleurs, hein, Daniel White et Jess Franco interprètent deux inspecteurs nonchalants, totalement à côté de leur pompe, ne faisant absolument pas avancer l'intrigue, incursion burlesque que n'aurait pas renié un Jean-Luc Godard. Mais pour son extraordinaire séquence de cabaret baignant dans une atmosphère surréaliste, motif d'ailleurs qu'on reprendra à son compte Franco dans de nombreux films, le film mérite vraiment le détour. Alors il parvient à distiller un érotisme soft très séduisant pour nos mirettes, valorisant la plastique de la sublime Estella Blin, vêtue entièrement d'une combinaison en résille. Alors le diabolique Z, hein, Dr Z, apporte la preuve éclatante du talent de Jess Franco, qui n'était pas un simple tâcheron du cinéma espagnol lorsqu'on lui en offrait les moyens. La contribution du regretté Jean-Claude Carrière y est aussi pour beaucoup, je pense.
Nous continuons à parler de Jean-Claude Carrière, le scénariste, avec un autre film qu'il a scénarisé. Nous faisons un petit bond de 3 années, de 66, nous passons à 69, avec le film de Jacques Deray, La piscine, la tension qui monte en plein été autour d'une piscine, avec Alain Delon et Romy Schneider. Et c'est Marine qui nous en parle.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait. Judicieux. Simple. Et logique.
Je trouvais Harry bien tendre avec toi hier soir.
Il est toujours tendre avec les femmes. C'est agréable, tu sais. Sa fille, à propos.
Quoi, sa fille?
Oh, rien.
Comment tu la trouves?
C'est à toi qu'il faudrait demander ça.
Mais curieuse.
Marianne, interprétée par Romy Schneider, passe ses vacances d'été avec Jean-Paul, interprété lui par Alain Delon, dans une somptueuse villa située sur les hauteurs de Saint-Tropez et dotée, c'est important, d'une piscine. Tout se passe à merveille pour les deux trentenaires, entre bain de soleil et grattage de dos topless, jusqu'à l'arrivée de Harry, joué par Maurice René, un ami du couple qui a entretenu jadis une relation avec Marianne et qui s'invite chez le couple avec sa fille, la très jeune et très belle Pénélope. Très vite, les tensions vont s'installer autour de ce lieu, la piscine, qui rassemble les quatre protagonistes, exacerbe leurs désirs, ravive les souvenirs et crée de nouveaux conflits.
Ces derniers temps, tu cherchais quelque chose. La première qui est passée, tu l'as prise. En plus, c'est la fille d'Harry. Ça t'excite.
Tu dis n'importe quoi, Marianne.
9 ans après Plein soleil de René Clément, Maurice René et Alain Delon s'affrontent à nouveau sous un ciel estival, ici dans ce qui fut le film le plus mémorable de Jacques Deray et qui fut coécrit par Jean-Claude Carrière. Initialement, le film était un livre également intitulé La piscine, un polar écrit par Alain Page, qui n'a d'ailleurs jamais aimé ce qu'en a fait le plus célèbre des scénaristes français. Carrière expliquait d'ailleurs avoir volontairement écrit des dialogues succincts, sans rapport direct avec les sentiments et les réactions des différents personnages, afin que la mise en scène soit davantage axée sur les jeux de regard, entre autres, et sur le langage corporel des comédiens. Si le film exerce toujours, aujourd'hui, sur le commun des mortels, une attraction irrésistible et qu'il semble ne pas avoir vieilli, c'est entre autres parce que, comme l'explique Jean-Claude Carrière encore une fois lui-même, les quatre personnages principaux sont tout au long du film en maillot de bain, en tenue d'été ou carrément nus, ce qui donne au film un aspect hors du temps. Après la piscine, De Ré retrouvera Alain Delon à 8 reprises, notamment pour Borsalino, et la carrière de Romy Schneider connaîtra un second souffle qui durera jusqu'à sa mort.
Qu'est-ce qu'elle devient, Marianne ? Y a pensé ? Hein ? Je t'en fous. T'intéresse plus. Toi, il te faut tout et tout de suite. Un enfant gâté. Pauvre petit con. Et pour finir, tu couches avec ma fille. Es-tu content ? Hein ?
Pourquoi tu me dis tout ça ?
This is Cinerama.
Nous poursuivons cette émission consacrée à Jean-Claude Carrière, le scénariste qui a scénarisé, ma foi, eh bien, plus de
200 films.
200 films. Donc, ce sera peut-être pas si évident de faire ce blind test, mais je crois que si, puisque là, c'est plutôt l'occasion, finalement, de rendre hommage à l'homme, plutôt que d'essayer de trouver le film que vous ne trouverez absolument pas. Donc, 5 extraits, 5 titres de films à deviner. C'est le premier extrait de ce blind test.
J'ai compté les soldats. Ils sont 24 et quelques-uns sont déjà malades. Vous avez vu leur tête ? Si je les attire dans l'escalier, je peux les attaquer au sabre. Je n'en aurai jamais plus dedans en face de moi.
Je vous défends de vous battre, je ne veux pas.
Bien. Et comment allons-nous sortir d'ici, s'il vous plaît ?
Sortir, mais pour aller où ? Je n'ai plus le courage.
Vous ? Je n'y crois pas.
J'étais là tout à l'heure, avant que vous arriviez, je regardais en bas, je pensais... C'est si simple de mourir si bref. Une seconde ou deux, on se laisse glisser.
Taisez-vous.
On ne peut rien faire, vous le savez bien. La maladie est là, partout. Elle est peut-être déjà en nous.
C'est faux. Allez vous reposer. Allez dormir.
Alors, ça commençait facilement.
C'est le Hussard sur le toit, film de 95.
Oui, de Jean-Paul Rapneau. D'après Jean Giono, l'occasion de rappeler... Que Jean-Claude Carrière est scénariste, mais aussi un adaptateur. Hein. Il a adapté de nombreux romans pour les besoins des films. Films avec Juliette Binoche et Olivier Martinez, hein, qu'on écoute dans cet extrait. Au milieu du 19e siècle, pendant une épidémie de choléra, eh bien, une jeune femme noble doit regagner le château en Provence où l'attend son mari. Et elle croise la route d'un jeune colonel de hussards italien qui, lui, est poursuivi pour sa participation au complot, révolutionnaire. Ils voyagent ensemble et mesurent combien la situation fait ressortir le pire ou le meilleur des individus qu'ils croisent. Ça fait 2,5 millions d'entrées en France. À noter que Jean-Claude Carrière a aussi adapté un autre roman. Celui-ci, c'était Cyrano, toujours avec Rapneau en 90. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Jean-Claude Carrière.
S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable comme nous. En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustes. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Ils n'ont construit que quelques huttes. Toute leur activité est physique, c'est certain. Et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis et domestiqués.
Ça a été trouvé, Guillaume.
C'est la controverse de Valladolid.
Oui, qui est un téléfilm et pas un film. Il n'est jamais sorti au cinéma, mais en revanche, il est sorti en DVD. C'est pour ça que je l'ai intégré quand même au blind test. Téléfilm donc de 92, réalisé par Jean-Daniel Verhaeg. C'est un film qui a marqué les esprits, qui se retrouve étudié par beaucoup d'enfants hein, dans les établissements scolaires. C'est aussi pour ça qu'il est important qu'il soit présent dans ce blind test, Manu, qui ne le connaît
je
pas.
Je n'ai jamais entendu parler, en fait.
Ça raconte un procès. Les Indiens du Nouveau Monde ont-ils une âme ? C'est la question qui est posée lors d'un débat public qui oppose en 1550 à Valladolid, capitale de l'Espagne d'alors, le chanoine Sepulveda, interprété par Trintignant, et le dominicain Las Casas, interprété par Jean-Pierre Marielle. Et donc là, nous écoutions Jean Carmet qui présidait ce débat. Allez, troisième extrait. Normalement, c'est très facile.
Ce jour-là,
Réfléchissant au monde des adultes et à mon propre avenir, je décidai d'y mettre un point final. Désormais, je ne voulais plus grandir d'un pouce. Je voulais rester pour toujours l'enfant de 3 ans, le gnome.
Trouvé.
C'est le tambour.
Oui, réalisé par Volker Schlondorf, sorti en 79, adapté du roman éponyme de Günter Grass, donc encore une adaptation de Jean-Claude Carrière. L'histoire se passe à la fin des années 20 dans la région de Danzig. Oscar, qu'on entend, refuse le monde cruel et surfait des adultes et il décide à l'âge de 3 ans de ne plus grandir. Et pour cela, il fera exprès de chuter du haut des escaliers de la cave de sa maison et ainsi va conserver sur le monde un regard d'enfant implacable et inflexible. Près de 2 millions d'entrées en France. Palme d'or du Festival de Cannes ex-aequo
avec Apocalypse Now,
avec Apocalypse Now évidemment, et puis Oscar quand même du meilleur film étranger l'année d'après en 80. Quatrième extrait de ce blind test consacré à Jean-Claude Carrière.
Je crois que vous cherchez mon français.
Moi ? Parle-moi du monde. Je dis ce que je sais. Je l'ai lu récemment dans une enquête très sérieuse.
Vous me permettrez de mettre en doute votre parole.
Non, je le répète, je sais ce que je dis.
Si je n'étais pas votre invité, je vous en demanderais raison.
J'ignorais que cette coutume chevaleresque était à l'honneur dans votre contrée à demi sauvage.
Monsieur, vous venez d'insulter la République de Miranda.
De vous à moi, la République de Miranda, je m'en soucie comme d'une guigne.
Et moi, je conchis votre armée dans sa totalité.
Et ça se termine par une gifle, cet extrait, ça a été trouvé.
Et c'est le charme discret de la bourgeoisie, on entendait Claude Piplu.
Et oui, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, il interprète le colonel. Il y a beaucoup de rôles dans ce film de Louise Buñuel, sorti en 72, avec trois notables qui essaient de planifier un repas ensemble, mais des événements imprévus empêchent ce dîner. Encore un Oscar du meilleur film étranger, cette fois-ci c'est en 73, 1,5 million d'entrées en France. À noter que, que c'est l'une des nombreuses collaborations de Jean-Claude Carrière avec l'Espagnol Luis Buñuel. Il fallait bien choisir un film. Allez, dernier extrait de ce blind test.
T'as quel sujet, danseur ?
C'est très simple. Vous prenez la succession de Polly, ça vous regarde. Mais Polly n'a jamais touché à ce qui appartient à M. Marello. Et vous n'y toucherez pas non plus.
Et alors ?
Je vous préviens. Si vous avez eu Polly par surprise, moi, je suis d'un naturel méfiant. Très méfiant. Un autre point très important. Rinaldi est mon ami. Si vous le touchez, c'est moi que vous touchez.
Pourquoi on le toucherait ? D'ailleurs, maître Rinaldi ne s'occupera plus de vos affaires.
J'aime pas beaucoup qu'on me parle sur ce ton, danseur.
Alors, ça n'a pas été trouvé dans les studios, mais ça va être trouvé avec peut-être cet indice. C'est l'adaptation d'un roman écrit par un journaliste sportif, Eugène Saccomanno. Film de 1970 avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.
Borsalino.
Voilà, c'est ça.
On l'a dit en même temps.
Au cœur. Borsalino, effectivement, donc d'après Bandit, le roman d'Eugène Saccomanno, Grandeur et décadence de François Capella et Rocco Siffredi, deux truands du milieu dans le Marseille des années folles. Un carton plein à cette époque, 3,9 millions d'entrées en France. Et c'est ainsi que s'achève donc ce blind test. Il fallait choisir 5 extraits de films parmi une filmographie qui en compte 200, puisqu'il s'agissait de trouver donc des films scénarisés par Jean-Claude Carrière. C'est à lui que nous rendons hommage dans cette émission. Et toi, Guillaume, tu as décidé de parler d'un film de Miloš Forman, sorti en 71. Le New York effervescent du début des années 70, c'est Taking Off.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Taking Off est une première pour Miloš Forman et Jean-Claude Carrière. Après une rencontre qui allait sceller une collaboration moins importante dans le nombre mais tout aussi riche que les thématiques de ce que Carrière fera avec Buñuel, les deux hommes décident de se retrouver à New York pour écrire un scénario original en vue de monter un film américain. Le problème, qui va bien sûr tourner à force de travail à leur avantage, c'est que l'Amérique et le monde sont en profonde mutation et que trouver un sujet d'écriture ne va pas être si simple que cela. Il faut dire que les deux hommes, nés au tout début des années 30, vont bientôt entamer leur 40e année d'existence et les révolutions qui s'emparent du globe sont principalement initiées par des jeunes. Conscients qu'ils ont un train de retard, ils décident de s'imprégner de l'Amérique des Easy Riders tout autant que de la France de mai 68 et du printemps de Prague. Il est à noter que Carrière n'en aura pas fini avec ce fameux socialisme à visage humain qui va bouleverser la Tchécoslovaquie car il signera 20 ans plus tard le scénario de la sublime adaptation de l'insoutenable légèreté de Lettres de Milan Kundera réalisé par Philippe Kaufmann. En ce qui concerne Taking Off, la genèse du film va donc se révéler délicate et va prendre plusieurs années, le réalisateur et le scénariste voulant trouver le ton juste pour faire un film de son temps. Rappelons aussi l'un des soucis rencontrés, les deux ne sont pas américains et il leur faudra donc un long travail ethnologique pour être dans le vrai. Mais les deux compères vont trouver le bon point d'accroche. Puisqu'ils ne sont plus de jeunes adultes, il devient dès lors tout naturel de donner le rôle principal à un homme lui aussi atteignant la quarantaine et qui va se prendre le nouvel air du temps dans les branches. Taking Off, comme son nom l'indique, peut alors décoller. Larry Tyne est un représentant typique d'une bourgeoisie new-yorkaise dans tout ce qu'elle a de plus formaté. Sa petite vie rangée se voit bouleversée le jour où sa fille Janie, 15 ans, fugue pour rejoindre de jeunes hippies dans Manhattan. Accompagnée de sa femme Lynn, qui se fait bien évidemment un sang d'encre pour leur progéniture qu'ils imaginent livrée à elle-même dans un monde devenu fou, ils vont partir à sa recherche, rencontrer des personnages hauts en couleur, devoir mettre à jour leur propre manière d'aborder l'existence et enfin embrasser un peu plus ce tournant historique et culturel qui a changé à jamais le visage de leur pays. Taking Off a l'intelligence de prendre la forme d'un road movie picaresque qui, s'il ne fait pas de cadeau à ses personnages, les met tous à égalité face à leur perception du quotidien et s'amuse de les voir s'opposer dans leurs contradictions évidentes, mais surtout se rejoindre dans leur recherche du bonheur. Car c'est ici, au fond, le véritable cœur du film. Qu'est-ce que le bonheur ? Alors, nous sommes bien sûr loin du travail de Jean Roche et d'Edgar Morin sur la même question dans leur chronique d'un été, mais on y retrouve ce même questionnement intérieur qui va motiver les personnages à chercher au plus profond d'eux ce qui donne véritablement un sens à leur existence. D'un côté, il y a la fougue de la jeunesse qui va directement à l'évidence et qui nous paraît parfois bien benoîte dans sa naïveté et sa franchise. De l'autre, il y a la balourdise des adultes coincés et perdus dans les aspirations de leur progéniture qui vont pour certains ouvrir quelques portes chères à Jim Morrison pour enfin relâcher un peu de pression. Les deux sont au final bien moins différents que ce qu'ils pensent et cette course-poursuite générationnelle va leur permettre d'accorder quelques violons. Jamais le film n'est véritablement grinçant ou un tant soit peu moralisateur. Le cheminement doux amer de Larry souligne le fait que ces bourgeois ont beau être dépassés par les pulsations de leur époque, ils n'en meurent pas moins d'envie de boire à la même source de cette liberté insolente prônée par la jeunesse. Il faut saluer la superbe interprétation de Buck Henry dans le rôle de Larry. Tour à tour béné, amusant, perdu, euphorique et lui aussi en plein questionnement, il est un candide constamment attachant et nous permet de suivre en douceur et avec un immense plaisir le parcours de cet homme qui va lâcher prise sur les conventions sociales qui l'emprisonnaient et regarder un peu plus en face le visage d'une époque qui n'est plus celle dans laquelle il a grandi. Forman, de son côté, reprend quelques figures déjà utilisées dans sa période tchèque, dont une audition d'artiste qui servira de fil rouge au montage et annonce bien évidemment ce qui sera l'un de ses grands succès suivants, l'adaptation de la comédie musicale R en 1979. Il bouclera ainsi la boucle de son regard analytique sur le mouvement hippie et l'Amérique en général, entre non-engagement politique et revendications libertaires poussées à l'extrême. Le point d'orgue étant, toujours dans cette volonté de ne prendre parti ni pour un camp ni pour l'autre, l'hallucinante et désopilante scène qui voit Vincent Chiavelli, que l'on retrouvera dans Vol au-dessus d'un nid de coucou du même format de 4 ans après, apprendre à des bourgeois effarés comment tirer sur un joint qui va leur faire tomber toute leur inhibition. Tout cela fait de Taking Off un film riche, précieux, intelligent et émouvant qui n'a pas pris une ride alors qu'il s'intéresse pourtant à un moment précis de l'histoire. Maintenant que Carrière a rejoint Forman et Henry de l'autre côté, on les imagine s'atteler à une suite qui repousserait les limites de leur questionnement philosophique sur la liberté.
Taking Off de Miloš Forman est un film qui est évidemment disponible dans une nouvelle copie en DVD. On termine cette émission consacrée à Jean-Claude Carrière avec un petit film qu'il a fait vers la fin de sa carrière en 2013. C'est L'artiste et son modèle de Fernando Trueba avec Jean Rochefort et une apparition de Claudia Cardinal. Alors nous sommes non loin de Céret, sur les pentes des Pyrénées proches de la frontière espagnole. La France est occupée et Marc Cros, un célèbre sculpteur, vit paisiblement avec sa femme. Et cet homme vit retiré par dégoût des hommes et de leur folie. Et la guerre en témoigne. Alors il aimerait retrouver eh bien, une nouvelle inspiration, mais sans succès. Jusqu'au jour où sa femme rencontre Mercé, une jeune espagnole échappée d'un camp de réfugiés. Et chez cette jeune femme, eh bien, le vieil artiste découvre une nouvelle muse et retrouve le goût du travail. Il va alors tenter de réaliser sa dernière œuvre. Film de guerre, film d'époque, tourné en noir et blanc, l'artiste et son modèle est un film patient, à la tonalité classique. Nous passons évidemment beaucoup de temps dans l'atelier du sculpteur à tenter de cerner son travail et ses doutes. On est attiré par ce couple, une jeune modèle qui fuit la guerre et un vieil artiste qui cherche un dernier souffle créateur. La guerre est une toile de fond. Le seul Allemand qu'on voit est un admirateur du sculpteur. Alors autant dire qu'il n'y a pas de parti pris, que là n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est l'amour de l'art et le mystère de l'élan créatif. Alors nous avions pu rencontrer Fernando Trueba, qui ne nous avait pas spécialement parlé de Jean-Claude Carrière et de son scénario. Mais voilà, comme c'est un dernier film, alors déjà de Jean Rochefort et puis de Jean-Claude Carrière, eh bien, on va écouter un tout petit moment de l'interview de Fernando Trueba.
Je voudrais une femme comme un rocher, comme une plante sortie de la terre, comme un arbre, comme la mer, une émanation directe de la nature. J'ai poursuivi ça toute ma vie.
Sans jamais l'atteindre ?
Non, jamais, jamais.
Cette histoire, j'aurais pu la raconter peut-être à une autre époque ou à un autre pays, mais c'était le contexte historique idéal pour moi, quelqu'un qui a vécu les deux guerres. Non, ça, j'ai trouvé ça tellement fort, tellement exagéré, tellement surhumain, non, que comme j'ai voulu transmettre l'idée de quelqu'un qui est dégoûté de la vie, qui est dégoûté de Jean Raymond, qui a perdu toute sa foi, toute l'espérance, qui n'a aucune envie de vivre, aucun respect pour son espèce. Qui attend, qui se laisse mourir lentement, non ? Qui a, évidemment, si tu es un artiste, tu es sensible, tu as perdu l'intérêt pour ton travail, parce que pourquoi faire un tableau, ou une sculpture, ou un film, ou n'importe quoi au milieu de tous ces massacres, non ? Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est en train de mourir, disons, et que tout à coup, la vie entre dans sa vie. C'est-à-dire dans la figure de cette jeune femme. Il y a un souffle de vie, un souffle de vent qui entre là, et il récupère, il reprend l'envie de travailler, l'envie de vivre, et il... Quand il n'attend plus, quand il n'attend plus rien, il a ce moment de plénitude à travers son travail, à travers les rapports avec une personne de notre génération, de notre sexe, de notre culture, de notre langue. Et tout ça, les rapports entre ce jeune et ce vieux homme, c'est ce qui m'intéressait. Et le contexte historique m'intéressait, mais en deuxième place. C'était surtout, il me servait pour raconter l'histoire et pour raconter le personnage. Je trouvais que c'était l'idéal.
Je vais te dire un secret.
Oui.
Il y a deux preuves de l'existence de Dieu. La première, la plus importante, c'est le corps de la femme. La Genèse, tout ça, c'est des foutaises. T'imagines Dieu créant l'homme. Faudrait quand même pas prendre Dieu pour un con. Par contre, il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé les océans. La mer, les fleuves, les rivières. Il a créé les plantes. Il a créé les animaux, les oiseaux, les poissons, toutes ces merveilles, le paradis. Alors ensuite, il a eu l'idée de créer un être pour lui, un être beau, parfait, avec lequel il partagerait le monde.
C'était Fernando Trueba, donc, pour L'artiste et son modèle, un film disponible en DVD.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, messieurs, on quitte l'hommage pour retrouver un peu l'actualité des sorties DVD et streaming avec toi, Guillaume.
Moi, ce sera La Mission de Paul Greengrass.
Et moi, une sortie d'un Blu-ray, en fait, Âme perdue de Dino Risi.
Et puis moi, la sortie en VOD-DVD de Parents d'élèves.